Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Lors du concert qu'il donna à Oudan le 8 octobre 2017, l'organiste Régis Allard interpréta des œuvres de compositeurs de musique baroque française du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, Jean-François Dandrieux. Né à Paris après 7 années d'études du piano, Régis Allard commence l'apprentissage de l'orgue dès l'âge de 11 ans. Dès l'âge de 15 ans, Régis Allard est remarqué par Michel Chapuis lors de l'Académie de l'orgue français à Saint-Maximin. Il poursuit sa formation avec André Isoard et Michel Chapuis, avec lequel il étudiera plusieurs années en cours particulier à l'église Saint-Séverin, ainsi qu'à la Schola Cantorum de Paris. Parallèlement à sa formation musicale, harmonie, contrepoint, musicologie, orgue et clavecin, il mène des études scientifiques à l'université. Il est lauréat du Concours international de musique française de Toulouse. Se passionnant pour l'interprétation de la musique ancienne, il participe à différentes manifestations autour d'instruments historiques en France, Espagne, Hollande et Allemagne du Nord. Il approfondit l'étude de l'interprétation des auteurs classiques français avec le musicologue Jean Saint-Aromand et le répertoire d'Europe du Nord en Allemagne avec Harald Vogel. Son premier disque, consacré à des œuvres du compositeur allemand Heinrich Schneidermann sur l'orgue Art Schneidger de l'église de Stade en Allemagne du Nord, obtient un choc du monde de la musique. En 2011, sa connaissance approfondie de l'orgue classique français l'a conduit à être nommé titulaire de l'orgue Louis-Alexandre Cliquot de Houdan.
Thank you.
Le CD, édité chez Hortus en 2017, s'intitule Magnificat 1739. Régis Allard le présente. En cette année 1739, Louis-Alexandre Cliquot achève l'orgue de Houdan, qui lui avait été commandé quelques années plus tôt pour l'église Saint-Jacques. Cette même année, 1739, est publié à titre posthume le premier livre des pièces d'orgue de Jean-François d'Andrieux, composé de 6 suites, qui pour chacune d'elles, outre un offertoire et quelques pièces diverses destinées à l'office, comprennent les 6 versets du Magnificat dévolus à l'orgue. Aussi, me suis-je mise à rêver et imaginer Jean-François d'Andrieux, organiste de l'orgue de la chapelle royale de Versailles, entretenu par Louis-Alexandre Cliquot, découvrant à l'invitation de celui-ci à quelques lieues de distance l'orgue neuf de Houdan, qui avait commencé à parler pour les fêtes de Pâques de 1735. Sans doute aurait-il improvisé, mais peut-être aussi joué quelques pièces de sa composition parmi celles proposées ici et qui seront publiées une année après sa mort. Il m'était paru aussi évident, poursuit Régis Allard, d'associer les deux célèbres suites de Nicolas Clérambault, également destinées aux versets du Magnificat, dont la musique, comme celle de d'Andrieux, marque une transition vers un même style instrumental et coloré, mariant une certaine influence italienne à la noblesse du style classique français. À l'exemple de l'offertoire en sol mineur, reprenant les deux premiers mouvements d'une sonate en trio écrite par d'Andrieux une trentaine d'années auparavant, ces pièces n'auraient-elles pas pu avoir été pensées pour instruments avant de figurer ici comme d'éventuelles transcriptions pour de l'orgue, donnant ainsi une perspective profane autre que leur unique usage au service des autels. Le sommeil d'Attis se prolonge avec des récits de flûte. Témoin admirable de la facture d'orgue classique française à son apogée, pouvait-on espérer plus bel instrument que celui de Houdan, parfait contemporain de cette musique et qui la sert à merveille. Vincent Jeanvrin commente du Magnificat à la suite. Les œuvres écrites pour l'orgue sous l'Ancien Régime répondent dans leur quasi-totalité à la petite forme, tandis qu'à chaque pièce se trouve associée une couleur sonore très caractérisée, autrement dit une registration, qui leur donne leur titre. C'est dire leur singularité dans le paysage musical de l'époque. Le format réduit est évidemment lié à la liturgie, qui réclame alors de nombreux versets d'alternance avec le plein chant. Pour l'ordinaire de la messe, les hymnes, le Magnificat, etc., l'importance donnée à la couleur découle du format, en vertu d'une nécessaire varietas. Cependant, l'alternance était pratiquée dans toute l'Europe catholique et même en terre protestante. Si en France l'art de l'orgue s'est cantonné peu ou prou à cette pratique, c'est qu'elle répondait parfaitement aux exigences d'une culture façonnée au long du règne de Louis XIV, laquelle renonce progressivement à une prolixité mêlant le merveilleux, le bizarre, le mélancolique au profit d'une économie de moyens drastiques, de contours nets, de caractères bien tranchés, ce que l'ancienne histoire de l'art résumait en opposant baroque et classique. Dans la petite forme, la question de l'organisation des pièces entre elles s'avère d'une grande importance. Parmi les structures imposées par les chants de l'Église, lesquelles, naturellement, ne furent pas conçues pour un tel usage, il en est une qui va rencontrer la faveur des organistes du début du XVIIIe siècle, le Magnificat. Celui-ci constitue un idéal à plusieurs égards. Le caractère solennel du cantique qui conclut les vêpres réclame une pompe dont les fastes de Versailles ont donné depuis longtemps le goût. Cela vaut pour la première et la dernière pièce, Magnificat et Doxologie, jouées respectivement sur plein jeu et grand jeu. Les versets centraux consistent en deux pièces plus intimes. Un air de bravoure, souvent en solo de basse, et un moment de grande expressivité. Dans les recueils édités, le modèle canonique se voit souvent augmenté d'une ou deux pièces pour que les versets puissent servir à d'autres fins, notamment le cantique Benedictus des Laudes. La proximité de cet ensemble varié et équilibré avec la suite pour clavecin était frappante, surtout pour des musiciens qui pratiquaient les deux instruments, impression renforcée par l'absence de verset initial citant le plein chant, en raison de sa nature psalmodique, remplacée par un prélude libre. C'est pourquoi certains auteurs vont attribuer au Magnificat ce titre de noblesse, de suite, qui les distingue des collections de pièces d'usage et même des messes, dont aucune des parties ne peut prétendre aux proportions parfaites du cantique de la Vierge. ces magnificates suites vont constituer l'idée artistique des organistes qui entrent dans la carrière à la fin du règne de Louis XIV, au point de faire l'objet de leur première et généralement unique publication, tandis que recueils et messes disparaissent du paysage éditorial. Citons Louis Marchand, 1700, œuvre perdue. Ses deux disciples, Jean-Adam Guillain, 1706, et Pierre Dumage, 1708, auxquels s'ajoutent Nicolas Clérambeau, 1710. Plus tardivement, Jean-François d'Andrieux, 1739, édition posthume, témoignant de la permanence du genre. Le rapprochement avec le clavecin devait avoir une conséquence que ces auteurs ne pouvaient guère prévoir, la capacité d'extraire ces ensembles de leur cadre liturgique pour les faire figurer de nos jours au concert ou au disque, comme ici, comme c'est le cas dans cet enregistrement qui renonce à l'alternance avec le plein chant. On remarquera à ce sujet qu'Alexandre Guillemant, le grand archéologue de la musique ancienne française, joua intégralement les deux suites de Clérambeau dès qu'il en eut assuré la réédition en 1901, à une époque où l'on se contentait généralement de pièces isolées. Nicolas Clérambeau, 1676-1749, et Jean-François d'Andrieux, 1682-1738, nés à Paris à 6 ans d'intervalle, furent tous deux des enfants prodiges et reçurent des leçons du même maître pour la composition, Jean-François Moreau. Ici s'arrêtent les points communs. C'est Régis Allard lui-même qui parle de son orgue favori dont il est titulaire. La commune de Houdon, située à environ 60 km à l'ouest de Paris, s'enorgueillit de posséder en son église l'un des joyaux de la facture d'orgue classique française. Commandé en 1734 par les marguilliers de Houdon pour l'église Saint-Jacques, cet instrument est emblématique à plus d'un titre dans le monde de l'orgue baroque. En premier lieu, il est l'œuvre d'un des membres d'une des plus illustres familles de facteurs d'orgue de l'époque, Louis-Alexandre Cliquot, fils de Robert Cliquot, à qui l'on doit l'orgue de la chapelle royale de Versailles, ainsi que ceux, notamment des cathédrales de Rouen, Soissons et Saint-Quentin, dont il ne subsiste que les buffets. Il est aussi le père de François-Henri Cliquot, le plus célèbre facteur français de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'acte original par lequel Louis-Alexandre Cliquot s'engage à fournir un orgue comprenant 21 jeux précise. C'est un orgue de 8 pieds de résonance qu'il sera fait conformément au dessin de l'orgue de Chevreuse pour la somme de 3200 livres. Il est indiqué en outre que l'orgue devra commencer à résonner à la fête de Pâques, 1735, pour être achevé 18 mois après ce jour. En fait, la réception de l'orgue n'eut lieu que le 28 avril 1739, après que les marguilliers de Houdan eurent dû poursuivre Louis-Alexandre Cliquot en justice pour lui faire achever l'instrument qui parlait déjà depuis 4 années. Il semble que l'instrument ait été bien entretenu jusqu'en 1870. Nous avons trace de plusieurs devis et marchés de relevage qui se sont limités à des dépoussiérages et des accords, sans aucune transformation de l'instrument, fait remarquable dans l'histoire de la facture d'orgue. Sans doute, l'orgue de chœur construit par John Abbey en 1873 au goût du 19e a-t-il contribué à la perte d'intérêt pour le vieil instrument de tribune et permis ainsi sa sauvegarde. Néanmoins, en 1931, l'orgue étant certainement muet et à l'abandon, il fut décidé d'entreprendre une restauration qui fut très vite interrompue au décès du curé de l'époque. La tuyauterie déposée à la tribune restera dans cet état jusqu'au début des années 60, au cours desquelles les Houdanais et les pionniers du renouveau de l'orgue classique ancien s'intéressèrent de nouveau à ce témoin de la grande facture classique française. Sur les conseils de Jean-Albert Villard, titulaire de l'orgue Cliquot de Poitiers, il fut décidé de restituer l'orgue tel que l'avait conçu Louis-Alexandre Cliquot, sans aucune modification à l'opposé du projet officiel qui, selon les tendances néoclassiques de l'époque, visait à transformer l'instrument avec la suppression des soufflets cunéiformes pour laisser place à une grande pédale à traction électrique. L'agrandissement des claviers, la modification de la composition des pleins jeux, etc. C'est ainsi que fut confiée en 1969 à Robert et Jean-Loup Boisseau la restauration de l'instrument qui fut inaugurée en 1972 par Marie-Claire Alain. Cette restauration a indéniablement ouvert la voie en France et en Europe à une nouvelle approche des instruments anciens qui s'imposera progressivement. Un relevage en 2015 a permis de répertorier plus précisément l'ensemble de la tuyauterie entre les tuyaux de Cliquot et ceux refaits à l'identique par l'entreprise Boisseau, et d'identifier certains tuyaux provenant probablement d'un instrument parisien du XVIIe siècle. À l'exception des pleins jeux, nous disposons dans l'instrument de 70% de la tuyauterie de Louis-Alexandre Cliquot, les tuyaux trop abîmés ou attaqués par la lèpre étant tous conservés dans un meuble à part. La grande richesse de l'orgue de Houdan pour l'interprète d'aujourd'hui est de disposer d'un instrument en adéquation temporelle et musicale avec le grand répertoire classique français. On est frappé ici par la douceur de l'harmonie d'une étonnante clarté dans l'édifice, les équilibres entre les plans sonores, la qualité des jeux d'anches ou encore la précision du toucher. Souhaitons qu'au fil des années à venir, les ressources indispensables à son entretien, au relevage et restauration qui s'avéreront nécessaires, puissent être trouvées pour le plus grand bonheur des musiciens, des facteurs d'orgue et des visiteurs du monde entier. Au revoir avec le plein jeu du Magnificat de Jean-François d'Andrieux. Marie-France Guimaroche vous retrouvera pour une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.